Chapitre 10. C'est l'un des quartiers les plus en vue de la capitale, un lieu devenu incontournable. Après avoir été interrompu, le percement de l'avenue de l'Opéra aura finalement nécessité une décennie. Rayant de la carte les buttes des Moulins et de Saint-Roch, pas moins de 10 rues, chassant ainsi des milliers de personnes de chez elles. Cependant, au bout du compte, celle qui aurait dû s'appeler l'avenue Napoléon est une réussite qui redessine complètement les environs. C'est la seule de tout Paris qui n'a pas été plantée d'arbres afin d'éviter d'altérer la perspective sur le majestueux palais des arts construit par Charles Garnier. Plus à la mode que jamais, les récents établissements jouxtant l'opéra proposent bon nombre d'événements majeurs. Celui qui est programmé aujourd'hui au Café de la Paix est l'un des rares à pouvoir rivaliser avec la réputation des attractions annoncées à l'exposition universelle qui ouvrira dans à peine une semaine. Malgré l'importance de l'assemblée, c'est un silence complet qui règne sous la grande verrière. Les spectateurs ont les yeux rivés sur le prodige qui se joue devant eux. Sur une estrade, une machine révolutionnaire, merveille d'esprit et de science, est en train de disputer une partie d'échecs avec l'un des plus éminents mathématiciens de la capitale, le professeur Paul-Mathieu Hermann Laurent. Concentré, l'homme est assis face à un dispositif incroyablement nouveau, mélange d'automates et de calculateurs. Sur un large buffet de bois sombre a été monté le buste d'un mannequin vêtu d'une veste à motifs floraux et d'un turban doré digne des plus riches maharajas des Indes. Son visage inexpressif fixe l'échiquier de ses yeux de verre. Son immobilité absolue lui confère une allure inquiétante. Lorsque vient son tour de jouer, seul son bras mécanique se promène au-dessus des pièces. Il les saisit de sa main articulée gantée de blanc, qui est bien loin d'avoir la grâce d'un membre de chair et de sang. Ses mouvements tremblants et saccadés agitent son turban scintillant et le plumet qui le surmonte. Sa tenue brodée de fils d'or accroche la lumière et attire tous les regards. Au début de la séance, le journaliste du Petit Parisien soupçonnait une fumisterie. Pour lui, ce personnage mécanique n'était qu'une simple enveloppe dissimulant dans ses entrailles un homme de petite taille. Trop heureux de prouver l'injustice de l'accusation, le propriétaire de la machine a aussitôt écarté les pans de la veste pour en révéler les coulisses. Il a fait de même en ouvrant en grand les portes du coffre constituant le socle de l'invention. Dans une clameur stupéfaite, la foule a pu vérifier par elle-même qu'il n'y avait que rouages, ressorts, crémaillères et tiges en mouvement. C'est à présent au mathématicien de jouer. Pour éclairer les spectateurs, contrairement à l'usage, il explique sa tactique à voix haute. C'est sans importance dans le déroulement de cette surprenante partie, puisque son adversaire n'est pas doté de louis. Je m'apprête à risquer une manœuvre astucieuse, détaille-t-il. Je vais pousser mon cavalier jusqu'à menacer sa tour. Ma position sera sans risque, et s'il est tenté de l'attaquer, il ouvrira une brèche dans ses défenses, dans laquelle mon fou s'engouffrera. La foule applaudit, mais le professeur interrompt le plébiscite d'un geste. Dans cet affrontement au sommet entre l'homme et la machine, rien ne doit le distraire. Le voilà qui déplace sa pièce. Le joueur mécanique reste impassible pendant un long moment, au point que l'on craint qu'il ne soit tombé en panne. L'hypothèse est alléchante pour beaucoup. Dans ce cas, l'intelligence humaine aurait, encore une fois, démontré sa supériorité tant en endurance qu'en esprit tactique. Alors que des murmures montent de l'assistance et que le savant donne des signes d'impatience, une série de cliquetis annonce la mise en branle du dispositif. Les rouages de la merveille sont en action. différents bruits d'engrenages se succèdent, témoins du fonctionnement de cette fascinante invention. La foule retient son souffle. Vincent et Pierre sont présents et observent avec une attention toute professionnelle. Ils ne manquent jamais de s'intéresser à tout ce qui pourrait être utile à leur activité. Depuis les débuts de sa formation, alors qu'il était apprenti chez l'horloger qu'il avait pris sous son aile, Vincent soigne particulièrement l'étude des automates. L'un de ses maîtres en était un spécialiste reconnu, et le jeune homme a pieusement conservé certains de ceux conçus par cet homme. Ses créations ont souvent été la source de bien des avancées dans l'art du mouvement contrôlé. Une mécanique comme celle qui donne vie à ce surprenant Maharaja pourrait forcément contribuer d'une façon ou d'une autre à l'élaboration de passages secrets. « Qu'en penses-tu ? » glisse Pierre à son frère. « Si ce mannequin et ce coffre ne renferment qu'un brillant mécanisme, je me demande pourquoi ils le cachent. Pour éviter qu'il ne soit copié ? Qui en serait capable, étant donné sa complexité ? Si tu veux mon avis, tout cela n'est pas clair. » Le bras du joueur d'échecs bouge enfin en cliquetant. Il ne déplace pas sa tour. Il a évité le piège tendu par le professeur. Le voilà par contre qui, déjouant toute prévision, déplace plutôt sa reine. Le coup est habile, et même si beaucoup dans l'assistance n'en comprennent pas les conséquences, la réaction embarrassée du mathématicien indique que la machine l'a mise en difficulté. Hermann Laurent a peut-être sous-estimé son adversaire. Tu te rends compte, Vincent? Une machine plus intelligente qu'un homme? Un savant, qui plus est? Je demande à voir. Sous prétexte que l'automate est sourd, le professeur a dévoilé ses intentions, en supposant qu'un joueur, même moyennement doué, soit dissimulé derrière les pièces en mouvement qui ne seraient qu'un décor destiné à distraire l'attention, il pourrait sans problème prendre l'avantage. Un homme derrière les rouages? Le coffre sous le buste est profond, suffisamment pour receler un espace caché derrière l'écran que forment ces jolis mécanismes. Tu crois? Cette époque promet bien des prodiges qui ne sont souvent que des supercheries. Regarde ces gens autour de nous. Tous sont venus pour assister à un miracle de la science. Hormis cela, qu'ont-ils en commun? L'envie d'être les premiers témoins d'un fabuleux progrès? L'admiration de l'extraordinaire? C'est plus terre à terre que cela. Ils ont payé pour assister à cette partie réputée historique. Les rares privilégiés, qui ont droit à une chaise au premier rang, ont même payé le triple. Je ne sais pas qui en sera le vainqueur, mais quel qu'il soit, c'est de toute façon le propriétaire de l'automate qui sera le grand gagnant. Il aura empoché une très belle somme. Le professeur hésite. Il peine à adapter sa stratégie. À la difficulté du jeu, s'ajoute sa hantise de perdre la face devant une machine déguisée en monarque exotique. La peur de se faire humilier publiquement par un vulgaire assemblage de roues crantées lui fait perdre ses moyens. Qu'en diraient ses éminents collègues de l'école agronomique? Un homme se faufile parmi les spectateurs pour rejoindre Vincent. Il lui saisit discrètement le bras et lui souffle à l'oreille « Salutations, mon ami. J'étais certain de te trouver dans les parages. » « Salut Clément, qu'est-ce qui t'amène ici ? La même chose que toi, l'envie d'apprendre, au risque de découvrir une escroquerie. » Les deux amis d'enfance se sourient. Ils ont grandi ensemble sur la butte, mais Clément en est descendu pour devenir officier, d'abord de police, avant de s'orienter vers la surveillance des mouvements politiques et des individus contestataires au sein de la police spéciale. Il salue Pierre, alors que Vincent lui demande du coin des lèvres « Pas trop sur les dents avec l'exposition universelle ?» L'enfer sur Terre. On ne compte plus les têtes couronnées qui débarquent avec leur suite pour s'installer en attendant l'inauguration. Paris est devenu le centre du monde. Entre les invités de marque et toutes les manifestations prévues, je t'avoue qu'on ne dort pas beaucoup. Hier, un fou a même tenté de mettre le feu à la tour Eiffel. Tu imagines ? un cinglé qui a essayé d'enflammer les poutrelles en acier avec ses misérables brindilles. Chaque jour apporte son lot de risques, d'impairs à éviter et d'informations à collecter. Les camarades de la gendarmerie se plaignent aussi, et la police n'est pas en reste. On a fait le ménage chez les anarchistes, mais l'événement va attirer tellement de monde que personne ne peut prédire ce qui se passera. Et toi, les affaires? On ne se plaint pas. Toujours aussi secret que tes passages, plaisante l'officier. Puis, désignant l'automate du menton, il questionne. Vous en dites quoi, ton frangin et toi? Tu connais Pierre? Il est convaincu qu'un jour, il y aura l'électricité dans chaque maison et que des trains rouleront sous terre pour remplacer les calèches. Alors, il est tenté d'y croire. Pas toi? Les charlatans ont souvent davantage de ressources que les scientifiques. Un bobard demande moins d'investissement qu'une découverte et rapporte en général beaucoup plus. Je paierai cher pour que l'on me laisse examiner l'intérieur du meuble jusqu'au fond. Clément approuve d'un signe entendu et commente. Je ne sais pas jouer aux échecs, mais je commence à connaître les gens. Ce Maharaja a beau être propre sur lui, il me faudra peut-être lui passer les menottes. Pas évident vu qu'il n'a qu'un bras. Les deux hommes éclatent de rire. Le professeur vient de perdre.